résister à la vérité. La vérité dans la société est très rarement le fil conducteur des événements politiques, des décisions économiques. La vérité n'est pas ce qui est coté à la bourse. La vérité n'est pas ce qui est annoncé à la radio. La vérité est à la merci de tous les moyens de pression possibles et de toutes les tendances, des intérêts et des peurs des gens. Quand Tchernobyl a explosé, eh bien la vérité, c'est qu'en Allemagne, on ne pouvait pas manger de salade, et de ce côté-ci du Rhin, à Strasbourg, on pouvait en manger. La vérité était différente pour les dirigeants français et les dirigeants allemands. Et ce n'est qu'un exemple, hein. Ce n'est qu'un exemple. Nous sommes si braves, nous, en Occident. Donc ça se fait qu'au sud du Liban, il y a 100 000 missiles dressés, prêts à partir sur Israël. Les Juifs et les Américains ont mis des batteries antimissiles. Mais si les 100 000 démarrent sur une heure ou deux, ils ne seront pas tous arrêtés. Et le but, c'est la terreur sur les villes, sur les civils. Nous sommes des champions du mensonge, nous, en Occident. Où sont-ils fabriqués, ces missiles? J'ai regardé hier soir, j'étais fatigué, on avait fait un déménagement, et il avait fait très chaud, et puis je vois que Noémie me met sur Internet l'histoire d'Israël, l'apparition de cet état d'Israël. C'était bien fait. Et ça s'arrêtait périodiquement, parce qu'on a un mauvais raccord Internet. Mais ça, c'est pas mal. Ça me permettait de lire ma Bible en même temps et de réfléchir. Quand ça va trop vite, tout est trop superficiel. Alors, pratiquement, j'ai vu toute la souffrance de ce peuple, de ces Juifs à travers le monde, qui ont été méprisés, jusqu'au jour où l'Occident a dit « Mais il leur faut une terre. Il leur faut une terre, quelque part. » On a pensé à l'Argentine. On a pensé au Kenya, à l'Ouganda, et puis pour finir, on s'est arrêté sur la terre de Palestine. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des souffrances horribles du côté juif, il y en a eu du côté palestinien aussi, et tout ça vient du chaos de plusieurs siècles. De plusieurs siècles. De mauvais enseignements, ou des pays soi-disant chrétiens, surtout dans le sud, dans la sphère catholique, on ne lisait pas la Bible, on est devenu antisémite. Mais il arrivait aussi que dans les pays protestants et orthodoxes, on devenait antisémite. Et pratiquement, cette haine est bien installée. Elle est encore installée. Parce qu'elle résulte d'un long travail culturel contre ce peuple. Bon, maintenant, ce qu'il y a, c'est que Israël est là, et Israël sera bientôt au rendez-vous avec le Seigneur. De plus en plus de juifs deviennent chrétiens et toutes les prophéties s'accomplissent et il n'y a plus beaucoup à accomplir. Et donc, la vérité, c'est qu'on ne va jamais dire à la télévision que beaucoup de juifs se convertissent à l'évangile. Jamais. On ne le dira pas. Je l'ai vu en allant sur place et heureusement parce que le Seigneur me l'a montré. Mais la télévision et la radio ne disent pas la vérité. Dans un film hier, sur Arte, il y avait une construction à peu près proche de la vérité. Par des gens convenables, je pense, raisonnables, et qui étaient soucieux de vérité. Mais ils n'ont jamais parlé de Dieu. Ils n'ont jamais parlé des promesses de Dieu qui sont faites à Israël, et à tous les peuples alentours. Ils n'ont pas dit la vérité. Ils ont approché la vérité. Et c'est comme ça dans beaucoup de choses. Un jour, j'ai dû prêter serment pour un homme qui a été longtemps occulte ici. J'ai dû prêter serment pour le défendre, et qui avait tué involontairement une dame. Et donc, je devais témoigner. Et au tribunal, on m'a fait prêter serment. Je ne le ferai plus, hein. Je vous le dis franchement, je ne le ferai plus. On peut me couper la main. Hein. Je refuserai. Parce que dès que j'ai eu prêté serment, les questions, on m'a manipulé. Tout ce que j'ai dit, tout ce que j'avais préparé, je n'ai pas pu le dire. On me posait des questions, il fallait que je réponde. Tac, 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 tac. J'ai eu ça une fois pour une équipe de la RTBF qui venait chez nous pour un ancien prisonnier d'Arlon que j'avais aidé à sortir et puis qui a tué une femme à Aubange. Et c'était quand même un type devenu dangereux par la suite. Il était venu au culte tout un temps ici. Et pratiquement, on m'a interrogé dans le salon. De tout ce qui avait été dit, tout ce que j'avais dit, ils n'ont retenu qu'un tout petit morceau. Et vous savez, quand vous tirez une phrase d'un contexte, vous en faites dire ce que vous voulez. Donc, qu'est-ce que c'est que la vérité, a dit Pilate. Alors, moi je vous le dis d'avance, la vérité n'est pas ce qui est propagé dans ce monde. Heureusement que le Seigneur Jésus est venu, il a dit « Je suis chemin, la vérité et la vie ». Chemin, la vérité et la vie. Pourquoi ? Parce qu'en lui, il n'y avait point de mensonge, pas de fraude, dit Ésaïe au chapitre 53. Donc ça, c'est clair, il y a un contraste entre la personne de Jésus et les comportements humains du passé et d'aujourd'hui. Donc dans l'Église, y aurait-il possibilité d'être dans la vérité, comme Jésus ? Si la vérité est à la merci des pressions du monde, des comportements de l'extérieur, au sein d'une église, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ, c'est l'église de Laodicée, une église que Jésus vomit. Si la vérité est à la merci des pressions charnelles, c'est-à-dire certains dans l'église ont des influences et font passer leur manie, leurs pensées, etc., et qu'on les habite de côté, si certains arrivent à imposer leur point de vue alors qu'il n'est pas biblique, dans des comportements, dans des choix de vie, etc., et que ça reste, on les laisse comme tel, est-ce que l'Église est le lieu de la vérité, la colonne de la vérité, comme dit Paul dans Timothée ? Ça, c'est pas facile, la vérité. Dans l'Église, c'est ça qui est drôle, c'est que la vérité n'est pas toujours vécue. Et j'ai pensé à Daniel à Babylone, qui pleurait et qui confessait le manque de vérité de son peuple, qui avait tellement provoqué la colère de Dieu qu'ils étaient en déportation. Quand les jeunes juifs sortis des camps de concentration sont arrivés sur la terre d'Israël, ils étaient fougueux et ils ne voulaient surtout pas penser que tout ce qui était arrivé dans le passé était dû au péché d'Israël, à une opposition, une désobéissance à Dieu. Ils ne voulaient pas entendre ce discours, donc ils étaient de tendance communiste et socialiste. Et ils ont fondé des kibbutz, et ils voulaient fonder un État socialiste juif. Pendant longtemps, c'est cette idée qui a dirigé la création des kibbutz et la prise de territoire, etc. Mais ils ne voulaient surtout pas se pencher sur la Bible et sur le passé pour dire « Nous avons été en déportation à Babylone, nous y avons été victitus, nous en sommes encore là, nous revenons maintenant, mais tout ça était annoncé déjà par Moïse dans Deutéronome au chapitre 28, 15 siècles avant Jésus. C'était annoncé par tous les prophètes, c'était annoncé par Jésus. Le discours de tous les jeunes et de la nouvelle génération juive qui s'est installée et les religieux n'avaient rien à dire, ils ne voulaient pas les entendre. Eh bien, c'est un phénomène spirituel qui peut être vrai dans les églises évangéliques comme dans les églises catholiques et protestantes. On peut avoir un mouvement charnel qui fait qu'on ne se mettra pas en face de Dieu et ce qui nous arrive ne peut pas être dû à Dieu et ne peut pas être dû à notre péché. Nous avons la volonté de ça et nous y arriverons. C'est une ténacité, un esprit coriace. Et c'est quelque chose de très, très difficile à faire partir. La vérité peut être à la merci des pressions charnelles dans une église. Et elles peuvent engendrer, cette pression charnelle peut engendrer un mal grave dans l'église. Un mal grave qui touche tout le monde. Prenons Galates. Galates, chapitre 5, versets 20 à 26. Nous ne sommes pas à l'abri dans une église d'être soumis à des non-vérités. Non-vérités que nous voulons maintenir dans l'église. Je me rappelle un vieux pasteur qui m'a dit, souvent dans l'église, il y a des gens qui viennent dans l'église pour y venir cacher leurs péchés. J'ai eu du mal de comprendre ça, je n'arrivais pas à comprendre. Et c'est évidemment une réalité. Comme on peut aller dans une mosquée pour cacher ses péchés. C'est ce qu'on appelle l'esprit religieux, simplement. L'esprit religieux, l'esprit de Caïn. Hein? Alors, Galates, chapitre 5, versets 20 à 26. Les œuvres, 19, verset 19. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, c'est-à-dire les conflits de séparation, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Paul, évidemment, dit les choses carrées, et Dieu est été carré avec lui, hein. Je pense que faire une vraie expérience de Dieu, on sait qu'il est carré. Plein d'amour, mais carré. Une expérience religieuse, le bon Dieu a un gros bidon, on lui caresse le papou, on lui frotte et on croit qu'en lui frottant, il nous passe tout. Dans l'esprit religieux, c'est un Dieu qu'on peut séduire. On peut cadenasser par quelques bonnes actions, quelques œuvres. Ah, ça m'a fait du bien de faire ce bien-là, de faire ci, faire ça. C'est pour Dieu. Et à cause de cela, on se croit en ordre avec Dieu. Non. Moi, je ne me suis jamais leurré dans ma relation avec le Seigneur sur tout ce que j'ai fait dans ma vie. Hein. Ce n'est pas ça qui me fait mériter ma vie éternelle ou une relation avec Dieu. Ma relation avec Dieu et ma vie éternelle, c'est un cadeau de Dieu parce qu'il m'a aimé, mais il s'est bien mis en travers, souvent, de tout ce que j'avais entrepris et fait, et ce n'est pas fini. Prenons la première aux Corinthiens, chapitre 11. Première aux Corinthiens, chapitre 11, verset 30. Vous savez que il y a une phrase qui est assez, pas toujours marrante, hein, quand on fait la Sainte Cène. On va faire sans doute la Sainte Cène dimanche prochain, et je présenterai certaines choses avant la Sainte Cène dimanche prochain. Mais regardez bien ici, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont morts. Pourquoi il dit ça? Pourquoi est-ce que Paul dit ça? Parce qu'il y a un comportement sacrilège dans l'Église lors de la participation à la Sainte Cène. Sacrilège, c'est-à-dire qui offense Dieu, qui n'a aucun respect pour Dieu. Et qu'est-ce que dit Paul, au verset 31, « Si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Et quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige, afin que nous ne serions pas condamnés avec le monde. » Donc, il peut arriver que beaucoup de détriments nous arrivent, simplement parce qu'on les a mérités. En tout cas, on les a semés. Dans l'Épître aux Galates, Paul dit qu'on récolte, on moissonne ce qu'on a semé. Et vous voyez bien que Paul dit « Ce n'est pas pour ça qu'on perd le salut. » Mais on peut être durement corrigé, jusqu'à avoir des maladies, jusqu'à avoir des épreuves. Donc, il faut faire attention que prendre la Sainte Cène indignement, c'est-à-dire sans une véritable considération pour le Seigneur Jésus, mais simplement parce que c'est un acte religieux, on cherche des bénéfices, des avantages, des bénédictions, mais sans réellement mourir à soi-même et participer au côté pascal de Jésus, c'est-à-dire je suis mort en Christ, je suis ressuscité en Christ, j'ai été crucifié en Christ, Christ m'a donné une nouvelle vie. Eh bien, c'est clair que si on n'est pas dans ce courant spirituel nouveau que Jésus a instauré, et qu'on vient avec le vieil esprit, la vieille alliance, je cherche les faveurs de Dieu, et je vais à l'église, je vais à Sainte-Seine, eh bien, ce sont ces sacrilèges par rapport à la croix. Parce que ce n'est pas le chemin de la grâce, c'est le chemin du mérite, de la séduction religieuse. Et donc, on voit que la vérité n'est pas à n'importe quel prix pour Paul lors de la Sainte-Seine. Et prenons Matthieu 7, 21. Qu'est-ce qu'il en est des prières, hein? Le samedi soir, nous prions ici. Hein? On a parfois été plus nombreux qu'on est, mais enfin. La prière, il y a souvent des grands sujets de prière, évidemment, pour le monde, pour tout, et puis on a le temps aussi parfois de méditer, de partager en lisant la parole. On peut aussi s'écouter, et on peut choisir des chants, etc. C'est un moment particulier, samedi soir, et le dimanche, mais on peut dire Seigneur, Seigneur, et regardez ce que Jésus dit, Matthieu 7, 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. » Et ça va un peu plus loin, hein? Parce qu'il dit « Vous commettez l'iniquité, vous commettez le mal, éloignez-vous de moi. » Au verset 23. Donc, on voit bien que la vérité est quelque chose de capital pour Dieu, et lors de notre rencontre avec le Seigneur, de sa venue, c'est sur la vérité de nos vies que nous sommes reçus ou pas, pas sur nos mérites. Alors, les pressions charnelles et les manques de vérité dans une église sont dangereux par rapport à notre destinée éternelle et par rapport à une bonne qualité de relation avec Jésus-Christ. Alors, résister à la vérité dans l'Église, hein, eh bien, souvent, on constate ça dans le comportement des personnes. Quand on résiste à la vérité, même si quelqu'un ne le dit pas, mais qu'il le vit comme ça, il résiste à la vérité, souvent il est sans objectif, durable pour sa vie. Il n'a pas vraiment d'objectif. Il ne sait pas où il va, il est ballotté par les informations, il est ballotté par les événements d'argent, par les événements de maladie, etc. Il n'a pas réellement le cap. C'est un bateau qui ne garde pas le cap. Ou un avion, j'ai vu une fois ça, j'étais dans un champ, un avion, carrément, il a fait demi-tour. Ils étaient sûrement en train de tailler la bavette, ils avaient loupé Paris ou Reims, et ils faisaient demi-tour. Hein? Parce que ça va vite, hein, 10 minutes en avion à 900 km/h. Alors, il faisait demi-tour, hein. Et c'est arrivé combien de fois que là, je suis dans le champ, tout d'un coup, paf, dans un autre sens. Alors, c'est des hommes qui sont au pilotage de ces avions. C'est pas des saints, hein. C'est la même chose dans les églises, hein. Nous avons perdu les objectifs, et puis après, Et pourquoi on va demander à Dieu de nous bénir? Mais non, il faut d'abord apprendre à avoir une vraie relation avec Dieu. Et résister à la vérité nous amène à perdre l'objectif et parfois même à perdre la direction de nos vies et la paix et même une sécurité profonde. Alors on est inquiet. Et un chrétien qui est inquiet, qui est toujours inquiet, va diminuer sa santé, va abîmer sa santé. À mon avis, c'est dans ce sens-là que Paul parle dans 1 Corinthiens 11, verset 30. C'est pas que Dieu donne des malédictions sur les chrétiens quand ils prennent mal la Sainte Cène, dans un mauvais état de rapport avec le Christ, Jésus, mais c'est parce que c'est une conséquence. L'état est comme une conséquence, c'est pas une malédiction de Dieu, mais les conséquences C'est ce que Paul dit dans Galates, nous moissonnons ce que nous avons semé. Et donc, c'est l'image du cultivateur, s'il sème des chardons, il y aura des chardons, il n'y aura pas du blé. Eh bien, la sécurité profonde et la constance des humeurs, la constance des objectifs, sont la constance de viennent de l'amour de la vérité. Ça, c'est extrêmement important. J'avais prié dans la semaine pour rencontrer deux personnes qui venaient ici au culte, et j'avais même mis un message sur un portable, un des deux. Ben, ou deux. Puis je suis arrivé, et en cours de route, ma voiture est tombée en panne. En pleine circulation, autour des pompes à Rodange, pas facile, mais en panne, et puis j'ai prié un quart d'heure, 20 minutes, la voiture a redémarré, j'ai pu refaire 200 mètres, j'ai dû m'arrêter et prier. J'ai dit, Satan est dans le coup. J'ai déjà eu ça autre part. Bon, pour finir, je suis arrivé là où je devais arriver. Et quand j'ai dit, mais on ne vous voit plus, qu'est-ce qui se passe? Oh, mais on a la foi, hein, on croit en Dieu. Je dis, vous croyez en Dieu? À votre façon. Mais quand Jésus reviendra, votre façon ne plaira pas à Dieu. Je vous préviens, je suis venu pour ça. Votre façon ne plaira pas à Dieu. Moi, je suis gentil, je n'ai pas de haine sur vous, je n'ai même pas le droit d'en avoir. Mais ce qu'il y a, le jour qui va être là, ça ne va pas rigoler pour vous. Et j'ai venu pour vous le dire. Prenez-le au sérieux, les amis. Moi, je suis qu'un schtroumpf, comme un balayeur de rue ou un postier, et puis c'est tout, je fais mon boulot. J'essaye, pas toujours vrai. Mais ce qu'il y a, j'ai pris le texte des cinq vierges folles, les cinq vierges sages, et je dis, est-ce que vous avez la Bible, mais vous avez le Saint-Esprit pour voir ce que la Bible vous demande, ce que Dieu vous commande dans votre vie? Vous avez la lumière sur votre chemin? Vous voyez, les objectifs, la direction, viennent de quoi? De ce que, quand on a la Bible et quand on parle de Dieu, avec le Saint-Esprit, on ne suit pas ce qu'on pense, on ne suit pas ce qu'on veut, on suit ce que Dieu veut. Et la vérité, Jean, chapitre 17, verset 17, Jésus dit, ma parole est la vérité. La vérité nous pousse à aimer la parole et à aimer l'autorité de la parole. La vérité de mon cœur, la vérité du Saint-Esprit me pousse à aimer l'autorité et la vérité de la parole. Donc, l'autorité de la vérité m'amène à assainir ma vie en Église, mon comportement avec d'autres chrétiens. Elle m'amène à construire une Église plus vraie. Nous sommes tous responsables mutuellement de l'état de vérité que nous partageons, ou de l'esprit de fausseté. Nous sommes spirituellement résistants à la vérité ou amoureux de la vérité dans une église. Zélés pour la vérité, enflammés pour la vérité. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 8. 2 Timothée. Vous savez, j'ai mal partout, j'ai 70 ans, je vois que mes forces diminuent. Mais quand j'ai vu ce film hier, j'ai dit, je vais le regarder. C'est important parce que je sais qu'il y a les 100 000 missiles au sud du Liban. Je sais qu'il y a des silos à missiles pour bombes atomiques en Syrie, fournis par la Corée du Nord, je sais. Mais que régulièrement, Israël envoie des avions de chasse sur les silos en Syrie. Mais au sud du Liban, c'est plus moyen. Toutes les armées qui sont là sont des armées entraînées par l'Iran, qui ont fait tous les coups en Afghanistan à droite et gauche. C'est plus des petits gugus qui se font sauter qu'une ceinture, des bombes. Ce sont des véritables combattants. Donc au moment où ils vont déclencher tous les missiles en même temps, toutes les batteries, patriotes et autres qui sont en Israël ne les arrêteront pas. Donc il y aura du carnage sur les populations, sur les écoles, les hôpitaux surtout, et pratiquement... En Israël, on le sait que ça va arriver, probablement cette année, par le nord. Ça, c'est pas Ézéchiel 38. Il suffit de regarder tous ceux-là qui sont alentour et regarder le nom des peuples qui sont cités dans Ézéchiel 38. Alors, Je disais à ces deux chrétiens-là dans la semaine, est-ce que vous vous rendez compte que les temps sont courts? Et vous me répondez des choses comme ça, là. Pourquoi est-ce que ma voiture est tombée en panne 4 fois avant d'arriver jusqu'à eux? J'ai eu le cas un jour de devoir aller voir une chrétienne à l'hôpital, à Reims. Je suis parti à 8h du matin. Il y avait eu tellement de péchés cachés qui n'étaient pas réglés. Mais cachés, tout le monde prenait. Mais pas moi, j'étais averti par le Seigneur. Je demande à 2 amis pasteurs et un chrétien non pasteur de venir dans la voiture avec moi. On avait plusieurs endroits à faire. Et là, on est tombé en panne à plusieurs reprises. On a dû aller au garage. Je suis arrivé à la porte de l'hôpital à 9h30 du soir. Reims, il y a 2h15 de voiture. À 9h30 du soir, ils étaient tous dans la voiture et moi je suis rentré, j'ai toqué, on m'a laissé rentrer dans la chambre. La personne qui se dit chrétienne était dans son lit. J'ai pu parler et prier avec. Et pratiquement, j'ai été l'objet de la haine de cette femme pendant 3-4 ans. Mais maintenant, elle est guérie. Elle sert le Seigneur. Mais quelle journée pour moi! Et pendant 3-4 ans de haine, des paroles mauvaises partout sur moi. C'est pas marrant le ministère. Et je remercie ce frère-là qui était dans l'auto, qui était en train de prier. Ils n'ont jamais eu un merci, ni moi. Hein. Cette personne, maintenant, sert le Seigneur. Mais en attendant, le combat n'est pas un petit combat, souvent. Parce que les gens, à force de désobéir, se mettent dans des liens si puissants. C'est des bataillons de démons qui les tiennent. Alors, quand un gugus qui vient au nom de Jésus, un petit qui n'est sans importance à leurs yeux, vient pour prier et dire les choses, il devient un objet de haine. Alors on peut raccorder ce qu'on a entendu avec le psaume 22. Vous imaginez la haine qu'il y a eu sur Jésus, de tous les démons de la terre, quand il était sur la croix, de tous les démons de la terre qui tiennent les hommes là, tous enchaînés dans un troupeau perdu. Imaginez ce que c'est que le Seigneur Jésus a dû subir comme attaque spirituelle et qu'il a accepté volontairement parce que c'est ces trucs-là que j'ai vécu. Sans doute il y en a encore d'autres. Je sais déjà où je dois aller à droite et gauche et c'est pas du gâteau. C'est pour ça que je me suis levé à 5 heures. C'est pas du gâteau, je sais que je vais me faire avoir si je ne me lève pas souvent. Alors, parce que c'est pas un petit chien, le diable. Et même l'être humain inconverti ou désobéissant, qui porte l'étiquette de chrétien, qui est désobéissant, parfois ça devient un monstre contre celui qui veut lui dire « tu ne dois pas faire ça, tu dois changer ». Et le temps que le monstre devienne la vraie brebis du Seigneur, eh bien, on encaisse. Deuxième à Timothée, chapitre 3, verset 8. De même que Jeannès et Jambrès se sont opposés à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence pervertie, ils sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Ils n'iront pas plus loin, car leur folie sera évidente pour tous, comme l'a été celle de ces deux hommes. C'est qui, Jeannès et Jambrès? Allez.
Les sorciers de Pharaon.
C'est des sorciers de Pharaon
qui ont transformé les serpents, les bâtons en serpents. Donc Moïse avait fait ça avec sa verge, mais les serpents en question étaient mangés par celui de Moïse.
Hein?
Mais les noms ne sont pas donnés dans l'Exode. Les noms sont
alors,
seulement ici.
Dans certains cas, je fréquente des gens qui se disent chrétiens. C'est quand même bizarre, nous sommes très peu nombreux ici, Mais je fréquente des chrétiens comme ça, à droite et gauche. Et il y a des puissances sur eux. Et je ne vous souhaite pas de vivre, de vous laisser aller à la désobéissance. Parce que quand on est tenu par tout ça, les masques sont épais. Ils sont en métal. Le masque de fer, là. Comme dans l'histoire du fils du roi de France, qui était dans un château enfermé avec un masque de fer pour qu'on ne le reconnaisse pas. Les masques de fer peuvent être mis à des chrétiens pour qu'on ne voit plus la gloire du Seigneur et qu'ils n'obéissent plus. Alors, dans la deuxième à Timothée, vous voyez un exemple qui est pris dans l'Ancien Testament et ils avaient une véritable haine de la vérité et de l'ouvrier de Dieu. Alors, la résistance à la vérité entraîne l'oubli de Dieu, l'aveuglement et l'hostilité aux serviteurs de Dieu. Elle diminue la puissance de l'Église pour faire des œuvres. Par exemple, il y a le projet de l'école, il y a le projet de la maison de prière. S'il n'y a aucune puissance dans l'Église pour faire ces deux projets, il n'y aura pas de projet. Et peut-être que l'Église s'arrêtera dans 2 ans. C'est fini. D'où vient la puissance d'une église? Regardez dans Apocalypse. Apocalypse traite de l'état de cette église. Cette église qui sont, bien sûr, des églises comme nous pouvons être, des églises contemporaines, pas seulement du passé. Alors, je dois probablement, en tout cas c'était un projet, aller voir les parents de quelqu'un de l'église au mois d'août peut-être. Prendre l'avion, rejoindre une famille là-bas et aller voir les parents de quelqu'un. Mais est-ce que j'oserais y aller? S'il n'y a pas de puissance dans l'assemblée de prière, je ne peux pas y aller. S'il n'y a pas de puissance de prière, non, je ne peux pas me heurter tout seul à ce que je dois rencontrer. Y aura-t-il des jeûnes et des prières dans l'église pour que je puisse faire ce travail? Et est-ce que quelqu'un viendrait avec moi? Je pense qu'il ne faut pas y aller tout seul, en plus. Alors, il faut vraiment quelqu'un de fondé dans la foi. Alors, dans Apocalypse, parce que le coup de la voiture qui tombe 3-4 fois en panne, c'est ici en Belgique. Donc, en panne ici. Et moi, je me rappelle, quand j'avais un ami vraiment dans le désarroi en Bulgarie, je suis allé et la maison à côté, il y avait une sorcière. Et puis, il y avait même quelqu'un de fou et dangereux dans l'assemblée qui avait fait un tort énorme à mon ami. Et le bâtiment de l'église était occupé par lui et plus personne n'osait rentrer dedans. Tellement il était dangereux. Et je me promenais, je priais. Je voyais mon ami, parfois, quand il lisait la Bible, il disait des choses qui... C'est pas possible. C'était pas juste. Je dis, fais attention à toi, tu es en train de dérailler. Satan est en train de te prendre. Ton esprit. Et alors, prier et jeûner, oui. Je me promenais, oui, prier et jeûner, je me promenais tous les jours, je partais à pied, comme il y a la forêt là-bas, et j'allais, je rentrais un peu dans la forêt, je ressortais. Et un jour, il y a une voiture qui passe lentement, 30-40 à l'heure, 5 hommes dedans. Et le Seigneur me fait comprendre, tu ne vas pas au bois ou tu ne reviens pas vivant. Je suis passé, et j'ai pris un autre chemin, et je me suis caché dans les buissons. La voiture est repassée, elle passait à 15 à l'heure, et ils cherchaient après moi. Qui les avait envoyés? Vous croyez que Satan n'existe pas? Quand on mène un combat, il faut les radars qui tournent. Les radars, et c'est grâce à la prière, grâce aux jeûnes. Nous sommes dans une période de combat. Pas d'endormissement. Alors, dans Apocalypse, au chapitre 3, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu, donc l'Esprit Saint, les 7 étoiles, les églises. C'est le Christ. Hein. Je connais tes œuvres, donc tes actions. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Regardez ça. Hein. Pour une église, sois vigilant, affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Donc il parle au responsable de l'église, il lui dit, attention, hein. Il y en a que deux ou trois qui sont vivants spirituellement. Prends-en soin, le reste est déjà mort. Le diagnostic du grand médecin spirituel de Christ sur une église. C'est pour ça que dans la semaine, j'allais voir ces deux personnes. S'ils savaient comment est le Seigneur, ils en font un roman. Le Seigneur n'est pas dans la bassesse des romans. C'est le Dieu Tout-Puissant. Alors, sois vigilant, affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Donc tes engagements, etc. Rappelle-toi comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Ok ? Donc, ce que je veux dire, résister à la vérité, c'est se faire un tort énorme. Considérable. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas s'illusionner sur nos petits pièges à nous qui nous provoquent de grands drames pour le futur ou peut-être très rapprochés. Dans la deuxième à Timothée, chapitre 3, quand je disais à ces deux chrétiens hébreux, il y avait comme une forme d'aveuglement sur moi, je n'arrivais pas à retrouver le verset dans l'hébreu. Je sais qu'il est là. Ça, c'est là que parfois je mesure, alors que la Bible, je la fréquente. Je suis là, je veux trouver le verset, je ne le trouve pas. C'est comme si je mets les lunettes sur le nez et je ne sais pas où elles sont. Et c'était le verset ceci, « N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est l'habitude de certains d'entre vous. » Je ne le trouvais pas. Hébreux 13 ou 12. Mais en attendant, c'est quand même bizarre qu'il y a comme une pression sur moi. Donc, il y a un prince de l'air, comme dit Paul dans Éphésiens chapitre 2, qui s'oppose à la vérité. Donc, il faut vraiment aimer la vérité pour ne pas se faire avoir par cet ennemi, ce prince de l'air, qui est vivant. 2 Timothée chapitre 3. Verset 16. Regardez, je vais prendre un peu au verset 15. Si j'ai du retard, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Du Dieu vivant, hein, pas un Dieu théorique, lointain, nuageux, je ne sais pas quoi moi. Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. C'est Dieu vivant dans l'Église qui est le pilier et le soutien de la vérité. Pour moi, ce n'est pas l'Église. Avec l'expérience, je sais bien que l'Église, nous sommes misérables, pauvres et nus, pécheurs, mal portants. C'est le Seigneur qui est le pilier de la vérité dans l'Église. C'est lui le centre de l'Église, ce n'est pas l'Église le centre. Alors, qu'est-ce qui est mis ? Tous le reconnaissent, le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme, sa justice a été révélée par l'Esprit Saint. Il a été vu des anges, proclamé parmi les nations. On a cru en lui dans le monde, il a été élevé dans la gloire. Le mystère de la piété est grand, c'est-à-dire le mystère de la foi, c'est-à-dire que la foi m'est donnée et au fur et à mesure que j'obéis, au fur et à mesure que j'aime la vérité, Dieu me dévoile qui il est. Il me dévoile une bonne relation. Il me fait le cadeau d'une vraie vie avec lui, avec le Dieu vivant. Donc, je suis un élément vivant dans l'Église vivante. Parce que si je suis vivant, l'Église sera vivante. Si sur 25 personnes, il y en a 3 qui sont vivants et 22 morts, ça sera difficile de pouvoir agir comme une Église vivante. Imaginez qu'à Virton, sur 11 000 habitants dans la commune, il y a 25 pompiers et 11 000 moins 25, tous les autres sont malades. Et que l'ambulance doit courir tout le temps. Il y a des incendies partout, et 25 pompiers ne pourront pas suffire. On appellera les pompiers d'État, d'Arlon, etc. Ça ne pourra pas suffire. Le problème, c'est que le mal ne se répand pas dans la société. Donc il faut que tout le monde soit prudent avec sa santé, prudent avec le feu, prudent avec les explosifs, prudent avec les carburants, etc. Alors les pompiers peuvent faire leur boulot, parce qu'un accident, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais si dans une église, les accidents spirituels sont routiniers et la constante de l'église, les pompiers de service ne peuvent pas suivre. Et où est l'église vivante de Christ ? Donc, vous voyez que résister à la vérité, mes amis, est un drame. Parce que je suis certain, quand je vois comment Daniel à Babylone pleurait, il pleurait pour le péché de son peuple devant le Seigneur. Il ne faisait pas la comédie. Il le suppliait de pardonner à son peuple. Et à lui aussi. J'ai pensé ceci, c'est que je ne devrais plus courir, vu que j'ai 70 ans et que je suis fatigué, aller à droite et gauche à partir du mois de septembre. Et que ce que je dois faire, c'est me mettre à genoux ici, plusieurs heures tous les jours. Voilà. J'ai pensé que Daniel a gagné la partie à cause de ça. Que si Israël a survécu, c'est à cause de la prière de Daniel et d'autres, Zacharie, Ézéchiel. Et je me suis dit, si on ne veut pas que le projet de l'école capote, la maison de prière et l'église, eh bien, je ne vais plus courir. Je vais me mettre à genoux. Et je vais pleurer, autant qu'il faudra pleurer. Comme Daniel. Pleurer d'espérance pour cette région et prier que nous nous relevions tous, que nous agissions tous pour le Dieu vivant. Ce que je souhaite vivement, c'est que chacun de nous se consacre à la prière. Et aux jeunes, sinon nous disparaîtrons vite. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.